le nez levé vers les étoiles, Hanoët le ménestrel écoutait les rumeurs du monde. Il venait de sortir de l'abri bricolé et branlant qui servait de repère à la compagnie folle. Derrière lui, quelques chandelles fumeuses tremblotaient encore au milieu des voilages mités et des ronflements sonores. La soirée avait été longue. Les battleurs avaient cousu à la diable les housses et les cottes d'armes de fantaisie qu'ils endosseraient pour le tournoi. Certains déguisements étaient tout à fait bâclés, car le nain Merfol était revenu avec 2 tonnelets pansus qu'il avait volés aux bouteillers du comte. On avait donc mené joyeuse vie pendant une bonne partie de la nuit, en becquetant des chansons à boire, en piquant de travers et en tapant le carton jusqu'à plus soif. Au moins, le vin avait eu pour vertu d'endormir la désillusion. Un vieil ami croisé la veille dans la suite du cal venait de faire faux bond, ce qui aurait pu un peu gâcher la fête. Coquimbert et Mère Folle avaient pourtant hurlé de joie et de rire quand ils avaient reconnu cette vieille canaille de bouche cousue et sapée comme un prince, s'il vous plaît. Le gredin avait juré qu'il viendrait faire ribote avec les joyeuderies à la brune. Et comme c'était prévisible, il avait posé un lapin. Certes, cela avait moins déçu les 2 elfes de la bande que Mère Folle ou Coquimbert. Hanoët avait l'impression que sa dernière rencontre preux-bourgeoise avec Bouche Cousue datait de la veille. Ils n'avaient pas encore la nostalgie de leur bamboche de naguère. La fraîcheur de la nuit tombait, et les fumées du vin se dissipaient rapidement dans l'esprit du ménestrel. Hanoët n'avait d'ailleurs pas assez bu pour avoir les idées brouillées. Le baladin préférait s'enivrer de musique plutôt que de guinguet. Il n'en avait pas moins plaisir à respirer cet air vif et à savourer un peu de quiétude. Son luth, son répertoire et ses belles manières remportaient un franc succès auprès des invités d'Anguzel de Kimark, ce qui lui valait d'être sans cesse sollicité et applaudi. Il s'en amusait plus qu'il n'en tirait de vanité. Dans son fort intérieur, il jugeait que toutes ces nobles personnes qui pratiquaient un théâtralisme courtois manquaient de distinction véritable et se comportaient en parvenus. Au milieu d'une société aussi grossière, le ménestrel regrettait vaguement qu'il fût un peu trop facile de plaire. À tout prendre, il préférait sans doute les saltimbanques et aigrefins de la compagnie folle. Au moins, ces turlupins ne cherchaient point à rhabiller leur basse humanité d'oripeaux mal taillés. Une brise un peu crue courut entre les pavillons, les faisceaux et les barrières. Vers l'ouest, Hanoët vit des étoiles disparaître. Des nuages venus de l'océan épaississaient la nuit. Avec un sens qu'avaient raffiné ses longs voyages, l'elfe flaira la pluie longtemps avant que ne tombassent les premières gouttes. Un sourire narquois effleura ses lèvres. Le grand tournoi du lendemain risquait fort de terminer en bain de boue. Cette éventualité ne lui parut cependant qu'à demi drôle. Il sentait trop de tension entre les 2 camps en présence. Une acrimonie ravalée à grand mal qui fermentait derrière les politesses et l'apparat de la fête. Ce n'était pas la première fois qu'il baignait dans un climat si délétère. Jadis, au cours d'un précédent périple, cela avait très mal tourné. Il haussa les épaules avec insouciance. Au moins, il aurait des nouvelles intéressantes à rapporter quand il remettrait les pieds dans les jardins crépusculaires de la reine. Un frôlement moelleux le tira soudain de ses réflexions. Quelque chose de doux et d'insinuant se frottait contre sa jambe. Ses yeux tombèrent sur un gros chat à peine discernable dans le noir, qui venait de se prendre d'affection pour le satin de ses chausses. Hanoët lui sourit. « Eh bien, tu n'es pas farouche, » s'étonna-t-il. Se penchant vers l'entreprenant Minet, il lui présenta les doigts pour faire connaissance selon les usages, puis caressa une fourrure qui frissonna de manière soyeuse sous la main. Cette cajolerie fut récompensée par un ronronnement grave, dont l'arythmie frappa l'oreille du baladin. « Quelle étrange amusie, maître chat !» s'étonna le ménestrel. « Cela mérite retouche. » Hanoët suspendit son mouvement. Cela n'était pas la première fois qu'il entendait cette bizarrerie. Ce pelage de jais velouteux cette morphologie de Matoutra pue sous la rondeur courtisane, et surtout ce ronron dissonant. Les sourcils joliment dessinés de l'elfe se haussèrent. « Mais je te reconnais, toi !» Ses yeux s'embuèrent d'une émotion soudaine, tandis que son minois s'éclairait d'une surprise ravie. « Merveilleux ! J'ai du mal à y croire, c'est tout à fait stupéfiant !» Mais si je me fie à ma mémoire, le grippe-minot frotta le genou du musicien de la babine. Anoët y sentit l'insistance espiègle d'une canine. « Tu es le vieux chat errant, le familier de feu l'archimage ?» L'elfe s'accroupit pour caresser à loisir ce rôdeur qui suscitait chez lui des sentiments contrastés, joie mêlée de tristesse. Mirabilis en profita pour fourrer un museau curieux dans l'aumônière du baladin. Il l'en retira au bout d'un instant, d'un air déçu. La bobine de corde de boyau, quoique tentante, lui avait paru trop insipide. Le petit flacon serré dans un chiffon doux ne sentait que l'huile de lin et la cire d'abeille. Tout cela n'avait rien de très appétissant. « Erin est dans cette tente ?» murmura Anoët. C'est à lui que tu dois cet hommage pour sa bravoure éclatante. S'il n'a pu sauver le magicien, il l'a vengé sur le champ. Ta visite lui ferait grand bien, surtout après si longtemps. Mirabilis manifesta son désintérêt en éprouvant le besoin urgent de se laver une patte. Le ménestrel, qui saisit sans mal le message, en parut un peu peiné. Il se doutait bien que le vagabond ne se laisserait pas emporter à l'intérieur sans sortir les griffes, et qu'il disparaîtrait si le grand-duc des Sacripants était appelé. Il continua donc à caresser le matou sans insister, ravi malgré tout de la rencontre. « Tu as peut-être raison, » admit-il. « Le détachement est préférable à de tristes effusions. » Au bout de quelques instants, rassuré par cette sagesse, Mirabilis se refit flagorneur. Il rendit ses amabilités cajoleuses à l'elfe en les appuyant de son ronron au tempo erratique. Quand il estima la prise assurée, il s'écarta de 4 ou 5 pas et s'assit avec une expression amène. La manœuvre était imparable avec les félinophiles dûment appâtés. Anoët se rapprocha pour poursuivre la câlinerie. Le matou se laissa à peine effleurer et, avec une coquetterie agaçante, reprit un peu de chant. Le ménestrel se mit à rire. « Il est trop tard pour ce jeu aimable. Je suis bien trop fatigué pour te courtiser en pleine nuit. » Du geste et de la voix, il l'invita plutôt à le rejoindre. Le chat noir, à demi absorbé par l'obscurité, lui faisait les yeux doux sans esquisser le moindre mouvement. « Eh bien, tu n'as pas changé !» s'amusa l'elfe. « Toujours enjôleur et insoumis. » Le musicien voulut retourner la malice à la guicheure et fit mine de rentrer dans la guitoune des batteleurs. Il n'eut pas le temps de faire un pas. Un bolide silencieux l'avait rejoint, frôlé en lui coupant le chemin, puis s'était dans l'instant replanté à distance. Mirabilis reprit la pose avec une telle prestesse que pas une de ses moustaches ne parut avoir bougé. Cependant, son regard avait gagné en intensité. Aux promesses de ses prunelles mi-closes s'ajoutait à présent une injonctive inquiétude. Anoët en fut à la fois amusé et perplexe. S'il était une faiblesse qu'il partageait avec le matou, c'était bien la curiosité. Le manège du greffier piqua la sienne au plus haut point. Il céda donc et s'approcha de Mirabilis. Celui-ci se leva et s'écarta davantage, mais s'arrêta près d'un piquet. Il s'y frotta la joue en jetant une nouvelle invite du coin de l'œil. « Oui, d'accord, tu as gagné !» se rendit le ménestrel dans un rire. « Je vais te suivre, petit malin !» Les yeux du matou se firent tout miel. Et puis, il reprit son chemin d'une foulée tranquille mais décidée, en balançant gracieusement sa queue comme un plumeau. Anoët le suivit sans se presser. On aurait pu croire que ce duo charmant flânait à l'aventure, tant il louvoyait largement autour des tentes. En fait, cette trajectoire onduleuse ne devait rien à l'agrément ou au hasard, mais à la précaution prise par le chat d'éviter les pavillons qui sentaient trop le chien. Quoique ce ne fût point en droite ligne, Mirabilis n'en guidait pas moins son compagnon vers la sortie du camp du dedans. De loin en loin, la barrière était gardée par des sergents en armes, une précaution qui confirmait la défiance du comte de Quimarc à l'encontre du duc de Bromel. Mais la nuit était avancée. L'elfe et le chat rivalisaient de discrétion. Ils passèrent à la barbe d'un piquier sans que la sentinelle émergeât de sa torpeur. Les deux promeneurs s'avancèrent en terrain découvert. Mirabilis s'était fondu dans la nuit herbue, et Anoëthe passait moins tangible qu'un songe. La brise soufflait parfois de doux bruissements dans la prairie et de distants feuillages. Ce murmure ainsi que les parfums de terre, de verdure et d'eau emplissaient l'obscurité. Quelques lumières brillaient au loin sur la tour de Lindinas et dans le camp du dehors. Ces flamèches ne faisaient qu'assombrir le grand manteau nocturne. Une rémanence vague creusait une nappe moins noire à la surface de l'étang. L'eau dormante reflétait un fantôme de lumière stellaire. Quelques coassements et des mouvements furtifs animaient les roselières enténébrées. Trois formes ailées traçaient en silence des cercles au-dessus de l'onde. Bizarrement, il parut à Anoëthe qu'il ne s'agissait ni d'oiseaux pêcheurs, ni de rapaces nocturnes. Même pour les yeux perçants de l'elfe, il n'était pas évident de suivre un gros chat noir devenu presque invisible. Mirabilis longeait le point d'eau sans se presser et se dirigeait vers le camp des aventureux du bois oiselé. C'était à peine si l'on devinait le faîtage des tentes qui dessinait sur le ciel étoilé une épure de toiture découpée comme un décor de théâtre ou une vignette de codex. Il restait toutefois quelques falots qui jetaient une lumière mourante à l'intérieur du campement. Devant le grand pavillon central, une double rangée de flambeaux formait une allée qui descendait de l'entrée de la tente jusqu'à la rive obscure. Ces luminaires avaient brûlé depuis le début de la nuit. La moitié d'entre eux s'était éteint, et les autres ne clignotaient plus que des flammes mourantes. Ces lueurs créaient plus d'ombre qu'elles n'éclairaient les lieux. Les rabats fastueux du grand pavillon, largement ouverts, transformaient l'intérieur du chapiteau en une gueule ténébreuse. L'œil aiguisé d'Anoëthe y devina des petits corps assoupis pêle-mêle sur des tapis et des amoncellements de coussins. On eût dit une hécatombe de chair fraîche offerte à un ogre de gaz de soie et de brocart. Quand il eut amené le ménestrel dans l'allée au flambeau, Mirabilis s'arrêta, s'assit et entreprit une toilette machinale. Anoëthe n'eut pas vraiment le loisir d'inspecter l'endroit. Trois hautes silhouettes à tête d'oiseau émergèrent des ténèbres du grand pavillon et marchèrent à sa rencontre. Ces ombres inquiétantes, mais vêtues avec goût, ne s'arrêtèrent qu'à quelques pas. Du même mouvement ou presque, elles ôtèrent leurs masques, révélant à la lumière incertaine de beaux faciès elfiques. Anoëthe se fendit d'une courbette légère. « Ah, mon très cher ami, enfin vous voilà !» salua le chevalier au pis. Il avait parlé très bas pour ne pas réveiller les pages endormis, ce qui avait conféré à sa voix une intonation presque intime. Comme Anoëthe, il était très brun, d'une chevelure qui se fondait dans la nuit. Son visage, aussi délicat que celui du baladin, restait cependant marqué d'une certaine dureté, jusque dans le sourire. Bien qu'il eût les yeux en amande, typique de son peuple, les éclats des torches allumaient parfois ses prunelles d'ambre comme celles d'un loup. En vous voyant ce matin dominer le combat sur le pré, j'ai été presque certain de reconnaître Ameline le guerrier, répondit Anoëthe sur le même ton. Quel bonheur de vous croiser! Nous voici bien loin des cinq vallées. Les deux elfes s'étreignirent et échangèrent un léger baiser de paix. Le chevalier au pis désigna ensuite d'un geste gracieux celui de ses compagnons qui avaient porté un masque de coucou. « Vous reconnaîtrez sans peine le haut seigneur Tigerned, dont le trépas n'a été que mise en scène. Afin d'obtenir la souveraine grâce qui abrège son exil, il s'est joint à notre cause avec audace et partage nos périls. Le ménestrel s'inclina à nouveau en affichant une déférence plus marquée à l'adresse du chevalier au coucou. Je suis vraiment honoré d'avoir l'occasion inopinée d'approcher le haut seigneur. Celui-ci salua d'un imperceptible mouvement du chef, et pourtant ce geste subtil respirait une majestueuse considération. Des trois aventureux du bois oiselé, Tiger Ned paraissait de loin le plus étrange. Son visage affichait la sérénité lisse d'une statue. Sa longue chevelure chatoyait d'une pâleur lunaire. Mais sous l'arc bien dessiné des sourcils, ses yeux n'étaient que des puits de nuit où scintillait un éclat lointain. « Voici des mots aimables mais révolus, » murmura-t-il. « J'ai résilié toutes mes fiertés, et vous venez donc de me flatter d'un rang et d'un titre dont je suis déchu. » Le fantôme d'un sourire parut adoucir ses lèvres minces. « À vrai dire, de nous deux, le privilège de la rencontre est surtout pour moi. Je vous ai écouté tant de fois célébrer vos chants comme des sortilèges dans les fêtes de la Haute Reine, que vous croisez en terre incertaine, est la plus réconfortante des surprises.
« Et d'ailleurs, où est votre instrument ?» intervint le chevalier Auget sur un ton cavalier. « J'aurais bien aimé pouvoir me pâmer en profitant de votre talent. »
Il avait parlé à haute voix, sans égard pour le repos des enfants. Des trois aventureux, il paraissait le plus svelte et débordait d'une vitalité qu'il contenait à peine. Son regard avait les transparences bleutées de la glace. Anoët en éprouva tout le tranchant comme il lui adressait ses civilités.
« Je vous prierai d'excuser l'insolence de ce petit fat, » s'entremit le chevalier au pis. « Lorsqu'il est bien disposé, le jeune Cadelin est courtois. Je crains qu'il ne vous confonde dans le défi qu'il nous a lancé, car dès demain, il nous fronde en rejoignant le camp opposé. N'ai-je pas de solides raisons ?»
repartit l'impertinent. Vous me présentez en âne batté, mais je n'ai nulle réprobation pour tous les quatrains de ce baladin.
Serviteur, messire ménestrel.
Le chevalier au pis s'empressa de reprendre la parole en affectant d'ignorer son ombrageux comparse.
Je ne crois pas m'avancer, cher Anoët, en disant que nous sommes aises de vous voir ainsi conviés avec nous pour cette occulte parenthèse.
En avez-vous été avisé par ce gros matou flatteur ?
Non. Nos oiseaux nous servent d'augure. Grâce à leur manège ailé, nous sommes au fait de l'aventure.
Tout en parlant, le chevalier au pis indiqua l'étang. Au-delà de la zone faiblement éclairée, on devinait toujours le tourbillonnement silencieux de trois grands passereaux au ras de l'onde. Il arrivait toutefois qu'une flamme un peu plus vive accrocha une plume blanche de lapis ou un éclat bleu dans la parure du jet. Mirabilis, qui venait de suspendre sa toilette dans une contorsion improbable, suivait ce triple volettement d'un air de convoitise.
« Leurs cercles sont plus serrés, » murmura Ameline. « L'événement ne tardera guère. »
Tout était pourtant d'une grande quiétude dans le camp des aventureux du bois oiselé. Ce fut à peine si l'oreille fine du chat et des elfes perçut le glou-glou doux de quelques bulles à la surface de l'étang. On aurait pu prendre ce remous pour le mouvement d'un brochet ou d'une carpe. Mais il fut suivi d'un clapotis plus fort, puis d'un brusque bouillonnement remonté juste sous la ronde des trois volatiles. Des vaguelettes s'élargirent et vinrent lécher la rive. Le calme retomba sur l'étang. Un calme plus profond qu'un instant auparavant, car les rainettes venaient de se taire. Les trois oiseaux firent un dernier tour et s'enfuirent à tire-d'aile. Les quatre elfes demeuraient immobiles, le regard rivé sur l'eau noire. Juste au-delà du halo de lumière, quelque chose d'obscur émergea doucement, sans rider l'onde. D'abord une forme ronde, portée par un col de cygne, puis par de jolies épaules et une silhouette à la taille de guêpe. L'apparition fendait les flots lisses à mesure qu'elle sortait de l'étang, et elle se révéla dans les lueurs finissantes. C'était une baigneuse entièrement vêtue, dont la parure gorgée épousait un corps enchanteur, tandis que ses manches longues et sa traîne surnageaient autour d'elle ainsi qu'un champ de nénuphars. D'une main chargée de bagues aux pierres vireuses, elle rabattit sur sa nuque une chevelure lustrée dont le jet brillait tel l'onyx. Comme l'apparition quittait l'étang dans un ruissellement mélodieux, Mirabilis se remit sur pattes en souplesse et s'écarta prudemment. Les quatre elfes s'inclinèrent de façon cérémonieuse. La nouvelle venue promena sur eux des yeux émeraudes d'une profondeur envoûtante. Puis, sans avoir daigné rendre la politesse, elle s'ébroua avec la vivacité bruyante de la loutre au sortir du bain. Un instant, elle ne fut qu'un frisson sonore de soieries, de chaînettes, de cheveux et d'une myriade de gouttes. L'instant suivant, elle avait repris la pose dans une toilette parfaitement sèche et ajustée, n'ayant à corriger du doigt qu'une mèche rebelle dans sa coiffure joliment apprêtée. Elle esquissa un sourire de coquetterie. Derrière elle, un énorme nuage de buée recouvrait doucement l'étang. Sans un mot, en relevant légèrement de la main l'ourlet de la robe, elle remonta l'allée qui menait de la rive vers le grand pavillon. Les elfes lui cédèrent respectueusement le passage. L'ondine traînait derrière elle une ombre disproportionnée et vaguement contrefaite qui assombrissait la nuit et la refroidissait comme le passage d'une averse. Dans son sillage, les flammes basses des derniers flambeaux crachotèrent et s'évanouirent en humides fumerolles. Ce mouvement ressemblait à une crue obscure qui, débordant de l'étang, aurait englouti le camp des aventureux du bois oiselé. Tout n'y était pas ténébreux. Outre l'âme émeraude qui brillait dans les yeux de la belle baigneuse, il émanait une phosphorescence verdâtre des joyaux ornant ses doigts, sa gorge et sa chevelure. Le halo vague de ses bijoux moirait parfois sa robe de reflets sinoples. Tel un lampire au charme lascif, l'apparition luisait dans le noir en étouffant toute autre source de lumière. Nimbée de son aura aqueuse, la Nyx entra dans la grande tente. Elle frôla sans les réveiller les pages endormies et alla s'asseoir avec naturel sur le fauteuil en bois de rose. Une fois installée en majesté, elle accorda à nouveau son attention aux quatre elfes qui ne dessinait plus que des ombres sur l'obscurité moins profonde du seuil. Le chevalier au coucou s'apprêtait à parler quand la dame des eaux l'interrompit d'un geste. « Avant toute chose, chers amis, soyons aussi directs que libres dans nos manières, » proposa-t-elle sur un ton engageant. « Foin de l'étiquette et des chichis. Ne m'appelez que Widelem la Lissandière. Oubliez mes titres et mon vrai nom. » Les elfes s'inclinèrent en signe d'assentiment, ce qui eut l'air de ne plaire qu'à demi à la mystérieuse causeuse, peut-être parce que cette obéissance s'exprimait encore de façon trop protocolaire. « Qu'importe le nom que vous portez, » flatta à mi-voix le chevalier au coucou, « car il suffit, pour nous enchanter, de nous plier à vos foucades exquises. Mon cher Tigerned, je sens du fer sous le velours. » répondit la visiteuse avec un certain mordant. « Vous êtes toujours au diapason des intrigues de palais et cabales de cour. Mais les éloges comme les menaces me donneront, au pire, matière à m'ennuyer et me laisseront au mieux de glace. Allons, au fait, vieux complimentaire. Jouez franc jeu. Dites ce que vous voulez de moi. Satisfaire ma curiosité ? Avez-vous pu récemment flâner dans les parcs songeurs de la Haute-Reine ? Eh quoi ! Ne faites donc pas l'erreur de me témoigner un zèle devenu si froid. Qu'importe la cour et ses rumeurs ? De toute façon, je me rends peu à duire Riguin. Vous souciez-vous de votre faveur ? Pour vous en entretenir, je n'aurai nul besoin de consulter notre souveraine. Vous plaint-on car vous passez pour mort ? On a poussé des soupirs, pleuré quelques semaines, mais là,
les absents ont toujours tort. Vous faites un défunt des plus commodes. Vous risquez fort d'être pris à votre propre piège. Les fausses morts sont passées de mode. On stigmatiserait vos artificieux manèges. Une résurrection trop précoce ne vous vaudrait que scandale et nouvelle disgrâce. Reposez en paix dans votre fosse. L'éternité n'est point une expérience fugace. Pour obtenir le royal pardon, votre meilleure partie est de servir mon caprice et mes savantes combinaisons. Faites de moi votre impératrice, et je vous rendrai l'affection de la haute reine. »
Cela redoublera mon bonheur, ironisa Tigernaid.
Si le chevalier au coucou s'exprimait toujours à mi-voix, la dame, quant à elle, parlait plus net, mais son timbre vibrait dans la nuit avec une séduction si soyeuse qu'elle enveloppait Louis comme une berceuse. Les elfes résistaient sans trop de peine au charme, mais les enfants sombraient dans une léthargie encore plus profonde. Quant à Mirabilis, il ne demandait qu'à céder à une suggestion aussi voluptueuse. Le matou bâilla en rabattant les oreilles, puis, avec son assurance coutumière, sauta sur les genoux de l'enchanteresse et vint se blottir dans son giron. Celle qui prétendait s'appeler la Lissandière le couva des yeux en lui décochant un sourire ensorceleur. « L'horrible petit impertinent » recoula-t-elle sur un ton qui eût fait fondre une pierre. Elle lui gratta le menton avec une parfaite science des faiblesses félines, et le gros chat fit sa reddition dans un ronron discordant. « Revenons à nos moutons et à ce qui m'amène, » reprit la dame. « Nous en serions obligés, » répondit le chevalier au pis. Le regard de Béryl caressa avec gourmandise les pages endormies. « Très belle provende d'innocents, » se réjouit l'enchanteresse. « Chers amis, vous avez de vrais talents de chasseur. J'accorde que vous m'êtes utile. Le jeu du ruban a-t-il distingué un vainqueur ?»«
Pas encore. » Tous s'efforcent de nous plaire, il reste à départager.
Écartez les sots et les fragiles. N'avez-vous pas déjà élu quelques favoris?
Le petit Agnel est un charmeur, répondit le chevalier au coucou. Il aime faire des farces assez vilaines, qu'il incline à la basse magie.
Le jeune Milouin paraît très éveillé, ajouta le chevalier au pis. C'est un vrai apprivoiseur. La magie vive est de ses facultés.
Qu'en est-il de la troisième voie?
S'enquit la dame.
Pour la haute magie, y a-t-il des dégourdis?
Rien qui révèle une âme très pie, fit Tigernaid avec dédain. Au mieux, certains ont la foi du charbonnier.
Vous n'êtes qu'un affreux rabat-joie,
le gourmanda la Lissandière. Du moins avez-vous déniché la danse et la transe, et tant pis pour la thaumaturgie. Je reconnais que je vous sollicite en avance, au milieu de la plaisanterie, et qu'il est un peu tôt encore pour distinguer qui sera ma prochaine poupée. Je rongerai donc mon frein en attendant l'été. J'espère en être récompensé.
Baissant les paupières sur l'émeraude violente de ses prunelles, elle inclina légèrement la tête de côté, comme si elle écoutait quelque chose.
« Il faut encore trier le bon grain de l'ivraie, » dit-elle songeusement. « Il y a dans ses rêves d'enfant des souvenirs crottés et des sottises trop gaies. Écrémez, écartez les perdants. À la fin, je veux le jouet le plus présentable. » Elle rouvrit les yeux et déclara sur un ton léger.
De toute façon, je suis venu dans un autre dessein. Il était indispensable de nous ménager cette entrevue. Par quel tour avez-vous réussi à dénicher mes deux meilleurs champions bromalois?
Si le chevalier au coucou resta de marbre, les autres elfes eurent un mouvement de surprise.
Ne faites-vous pas erreur? Risqua le chevalier au pis. Ne nous prêtez-vous point trop de clairvoyance?
Voyons, Ameline, repartit la dame avec humeur. L'un d'eux se repose juste à côté.
L'elfe aux yeux d'ambre en convint volontiers.
Le chevalier aux épines est accueilli ici avec bienveillance, en une tente voisine. Mais nous sommes étonnés d'apprendre qu'il existe un autre champion.
Allons, allons, parlez-moi en toute bonne foi. Je ne crois pas aux coïncidences.
Comment avez-vous démasqué Messire Edan ?
Je crains qu'il faille vous décevoir,
intervint Tigernaid avec un soupçon de dérision, car nul parmi nous n'a su y voir. C'est votre chevalier qui nous a trouvés.
Edan a remonté jusqu'à nous en suivant les disparitions, expliqua Hamelin. Bien qu'il ne nous connût point, il devinait que nous étions vos servants. Il voulait mettre en commun nos forces dans quelques hauts faits éclatants.
La Lysandière fit la moue. En épousant une autre allégeance, releva-t-elle avec un rien d'aigreur.
Eh bien, le procédé ne manque pas de piquant.
Mais moi, je combats dans l'autre conroi, se vanta le chevalier au jet.
Nous semons folie et confusion,
observa tranquillement le chevalier au coucou.
N'est-ce pas servir vos intentions ?
La dame joignit ses jolis doigts et leva ses yeux phosphorescents comme si elle cherchait l'inspiration dans l'obscurité du ciel de tente, ou comme si elle avait oublié quelque chose. Elle chantonna un début d'air délicieux qui fit frissonner les elfes de plaisir et d'appréhension, mais s'interrompit assez vite.
« Bien, 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 »
acheva-t-elle de fredonner.
« Passons que vous soyez tous assez sots pour avoir été ainsi joués. Ce petit chevalier a fait de vous ses féaux pour la durée des festivités. Suis-je froissé que vous serviez une autre dame ? Allons, je ne suis pas si jalouse. Ne suis-je point experte dans les retours de flammes ? Il se peut même que je vous couse des justes au cœur brodés de cendres et de consomption. »
Elle leur coula un sourire tout de séduction vénéneuse.
« Et pourtant, je veux bien reconnaître un soupçon de sagesse dans votre déraison. Votre étourderie m'a prodigué une fenêtre sur le désordre dans le duché. Quel puissant parfum de révolte et de sédition. Vous m'offrez une opportunité. Je vous donne mon aval pour souffler sur les braises. Joutez donc, attisez le conflit. J'attends que vos prouesses entretiennent le malaise. » Quant au second de mes favoris, jamais il n'aurait manqué fête si belliqueuse. Je reconnais votre bonne foi quand vous confessez une ignorance malheureuse. Votre présence dans le même endroit n'est donc due qu'à un plaisant concours de circonstances.
Quoi que vous pensiez de notre aveuglement, repartit Tigernaid, nous avons également flairé le remugle d'un pouvoir vicié.
C'est quand accueille des nécromans.
Hélas, le clergé du desséché jouit de nouveau d'une regrettable tolérance et a retrouvé droit de cité,
acquiesça la dame.
Quelques-uns de ces énergumènes hantent sinistrement plus d'une chapelle noble. Si nocif soit-il, le phénomène reste pourtant circonscrit à quelques tâches ignobles. Gardez-vous plutôt de ces nargins. Le vieux charlatan rôde toujours dans ces contrées, et son jugement est assez fin pour venir contrarier nos innocentes menées.
Comme prise par une impulsion, la dame aux yeux verts frappa dans ses mains, éveillant en sursaut un mirabilis qui avait sombré dans une béatitude léthargique.
« Mes amis, vous n'êtes pas sans savoir que je me trouve en même temps ici et là-bas, »
dit la Lysandière sur un ton prime sautier.
L'enchantement va bientôt échoir, et il me reste encore fort à faire d'ici là, comme aller tenir conciliabule avec mes deux champions bromalois en leur quartier. Je déclare donc clos ce conventicule, et je vous dispense du plaisir de m'escorter. Reposez-vous avant les combats. Mandez-moi jusqu'où dort le chevalier aux épines.
Afin d'honorer ce chevalier, je l'ai invité dans mes quartiers, répondit Tigernaid.
Fort bien. Ce n'est donc qu'à quelques pas.
La dame esquissa un geste de l'index. De mauvaise grâce, Mirabilis condescendit à sauter de ses genoux. La Lysandière se leva en majesté, mais prit encore le temps de considérer les ténèbres luxueuses où elle rayonnait vaguement. Elle finit par se pencher sur la chambrée des pages endormis.
« Trop mignon, »
roucoula-t-elle.
Ce qu'ils sont choux, ces petits animaux. »
D'un geste spontané, elle ouvrit le chaton d'une de ses bagues. Il en sortit une poussière scintillante de minuscules arachnides qui se répandirent sur ses doigts.
Lorsque toute sa main chatoya de ce grouillement, elle souffla dessus, soulevant une poussière luminescente qui dessina au-dessus des enfants un dôme doré d'arentelle. Alors que la féerie arachnéenne retombait doucement sur les marmots, l'enchanteresse ronronna.
« Je vous offre le ciel étoilé, mes petits chéris, plein de beaux rêves estivaux. »
Elle leur envoya un baiser du bout des doigts, et ses lèvres parfaites se mirent à briller de paillettes arachnoïdes. Puis, soulevant légèrement l'ourlet de sa robe, elle s'apprêta à quitter le pavillon.
« Adieu, chers amis, jusqu'à l'été. Amusez-vous bien et humiliez les orgueilleux. »
Les elfes s'inclinèrent très bas à son passage. Quant à Mirabilis, il battit de l'oreille gauche, l'air soudain abasourdi, avant de trotter docilement dans les jupes de l'enchanteresse. Il avait été le seul à entendre l'invitation comminatoire qu'elle venait de lui adresser en esprit. Celle qui se faisait appeler la Lysandière se drapa dans un manteau d'ombres et de buées, sitôt sortie du grand pavillon. Elle se dirigea vers la tente aux armes du coucou et en souleva la portière d'un geste silencieux. Ses prunelles de béryl fouillèrent l'obscurité avec autant d'aisance que celle de Mirabilis. Derrière le poteau central délicatement orné de motifs floraux, la dame et le chat découvrirent un lit où reposaient deux hommes. Un peu à l'écart, un enfant était couché sur un matelas fait de tapis de sel, la nuque calée contre une sacoche d'arçon. La visiteuse entra, plus légère qu'un soupir, mais sa silhouette déliée parut emplir tout le volume de l'étroit logis. Elle se pencha vers les deux dormeurs et sourit en reconnaissant le visage mâle d'Edan.
Il n'a pas changé, mon bel errant,
se félicita-t-elle sur un ton suffisant. Puis elle fronça le sourcil en dévisageant son compagnon.
Quel est donc ce vieillard? Que vient-il faire en ces lieux?
C'est son écuyer, Nem,
répondit une voix ensommeillée. D'un même mouvement, l'enchanteresse et le chat tournèrent la tête vers le page. Celui-ci s'était redressé sur un coude.
Et voici le petit insolent,
susurra la dame avec une inflexion aigre-douce.
Pour vous servir, comme toujours, votre Altesse Charmeresse,
répondit-elle sur le même ton. La visiteuse reporta son attention sur le servant du chevalier.
Le jeune Nem ne peut être ce vieux grison,
reprit-elle avec incrédulité.
Tu me mens, impudent freluquet.
Ah oui, bien sûr, impudent freluquet, rien que ça,
regimba le garçon en montant dans les aigus.
C'est vous l'envoûteuse, mais c'est moi le menteur.
Elle l'interrompit d'un geste menaçant.
Chut, tu vas les réveiller, baisse de plusieurs tons. Et vous, ne me traitez pas de menteur,
protesta le garçon tout en parlant plus bas.
Je vous dis que c'est Nem. Ça fait juste un bail que vous ne l'avez pas vu.
Un certain étonnement se peignit dans le regard d'Émeraude.
Je vous ai hébergé il y a peu.
C'est un fait,
réfléchit la dame à haute voix.
Comment a-t-il pu tant décliner?
Parce que ça fait une éternité que vous nous avez mis dehors,
grommela le page.
Vous autres humains, ce que vous êtes éphémères. Comment pouvez-vous représenter de si grands dangers alors que vous ne vivez guère?
Elle haussa les épaules avec un dépit charmant.
Fort bien, tu m'as dit la vérité. C'est Nem tout ridé, tout usé et tout chenu. Merci, Kel. Tu peux retourner au royaume des rêves et des souvenirs perdus.
Ces paroles avaient été prononcées sur un air si insinuant que Mirabilis se surprit à bâiller et à cligner des yeux. Mais le page, lui, restait assis bien droit sur sa couche. Le blanc bec eut même l'effronterie d'esquisser un sourire narquois.
« Vous savez, ces trucs et moi, »
nargua-t-il. La Lysandière le foudroya du regard, ce qui aurait eu de quoi faire frémir bien des cœurs endurcis. Toutefois, le gringalet prenait visiblement plaisir à jouer avec le feu.
s'il est quelqu'un qui n'a pas changé, siffla l'enchanteresse. C'est bien toi, petit coquin. Mais ne va pas trop loin, car tu ne pourras me résister si, au lieu de badiner, j'y mets vraiment du mien.
Moi, je veux juste remplir mes devoirs et réveiller le chevalier, rétorqua le page sur un air trop innocent pour être honnête.
Tu n'en feras rien, m'as-tu compris?
C'est qu'il va me punir si je lui apprends que vous lui avez rendu visite et que je ne vous ai pas annoncé.
Il croira m'avoir vu dans un songe et rien de plus. Toi, tu prétendras avoir dormi.
Vous voulez que je mente au chevalier? Feignit de s'offusquer le page.
Jeune grimacier, allons. Dis ton prix, que veux-tu?
Un éclair de convoitise brilla dans le regard du gamin.
Je ne sais pas trop,
atermoya-t-il en essayant de dissimuler ses sentiments.
Qu'est-ce que vous me proposez? Pour ta complicité cette nuit et ton silence demain, je t'offre 2 quartiers.
Quoi? Seulement? Mais c'est de la roupie de Sansonnet. Ça vaut au moins 2 saisons. Ce fut au tour de la Lysandière d'afficher un air scandalisé.
2 saisons, brigando, mal appris. Alors qu'au quotidien tu mens comme tu respires?
1 lune, tout au plus.
Et encore? 1 lune, ce n'est rien du tout. Il m'en faut encore 40 fois plus pour devenir écuyer. 1 saison, allez, 1 saison. Ça ne mange pas de pain. Et je gagnerai peut-être 1 pouce. 1 saison. Effronté, ça ne me fait pas rire. Petit picassiette chronophore. Je te cède 2 lunes et c'est déjà bien payé.
Quelle fit mine de peser la proposition.
Bon,
admit-il de mauvaise grâce.
C'est toujours ça de prix.
Tout en le toisant avec irritation, la dame prit en son sein une fiole minuscule qui semblait contenir un résidu noirâtre. Elle la tendit au page, mais la lui retira comme le garçon cherchait à la happer.
N'oublie pas le rituel, vaut rien. Pour croître en plus de vieillir, il te faut mélanger ce filtre à des larmes de bambin. Sans quoi tu te faneras au lieu de t'étoffer.
Ne vous en faites pas, pour ça je m'y connais. C'est la partie la plus drôle de la recette.
La Lysandière lui céda l'ampoule du bout des doigts, d'un air rempli de réticence. À présent, laisse-nous un instant. Sors attraper un bon coup de lune, un chaud et froid. Ou bien va te noyer dans l'étang. Peu me chaud. Pourvu que mort ou vif, tu restes quoi?
Cette fois, qu'elle ne se fit plus prier. Sans doute craignait-il que la dame se ravisât. Ayant glissé la fiole dans la manche de sa chemise, il saisit son pourpoint d'une main et ses poulaines de l'autre. Il se fendit d'une brève révérence qui, ainsi encombrée, se teintait de moquerie. Une fois qu'il fut sorti, la Lysandière tendit l'oreille un moment pour s'assurer que le garçon s'éloignait. Puis son visage délicat se plissa de dérision, tandis qu'elle grattait tendrement le crâne de Mirabilis.
« Nous l'avons bien dupé, ce faquin, »
ronronna-t-elle. Une once de passiflore et de reine des prés l'amuseront, mais ne le désenvoûteront point. La dame retourna au chevet des 2 adultes endormis. Elle couva un moment des yeux le cire de Vaumacelle et, de la main droite, effleura un collier qui ornait sa gorge, dont la pierre vert d'eau diffusait dans les ombres des phosphorescences maladives.
« Vous voyez que je ne vous oublie point, chevalier, »
susurra-t-elle de façon troublante. « Vous avez su retrouver mes gens. Vous m'aimez donc encore.
J'en suis affriolée et je vous dois un beau semblant. »
Elle se pencha sur le visage du dormeur comme si elle allait l'embrasser.
Et, après l'avoir considéré un moment, elle murmura. « Je conserve votre cœur au fond de mes allées, dans un berceau d'épines et de fleurs. Cette nuit, venez. Risquez-vous dans la roseraie, et je vous comblerai de faveurs. »
Elle souffla sur les paupières du rêveur. Soudain, une expression de bonheur douloureux bouleversa les traits du chevalier, sans qu'il parût s'éveiller.
la Lysandière contempla son œuvre d'un air satisfait.
Qu'il est doux de s'employer à donner du bon temps,
se réjouit-elle en se redressant. Elle tira d'une manche une longue étoffe soyeuse qu'elle laissa tomber sur la poitrine des dames.
Demain, défendez bien mes couleurs,
lâcha-t-elle sur un ton badin. Puis, se penchant vers Mirabilis, elle ordonna
« À présent, maître chat, gagnons l'autre campement. Cajolons mon deuxième champion. »
Il était inutile de lui en dire davantage. Dans une rêverie partagée, elle venait de lui montrer celui qu'elle désirait trouver. Cette partie-là de l'expédition ne plut guère au matou. Il leur faudrait se faufiler dans une zone du camp du dehors où il s'était bien gardé de mettre la patte, tant elle lui paraissait mal famée. Mais sans doute était-il plus périlleux encore de décevoir l'enchanteresse. En outre, Mirabilis ne doutait pas qu'elle avait les moyens de le protéger. Encore fallut-il qu'elle en eût aussi le caprice. L'enchanteresse et le matou quittèrent le domaine des aventureux du bois Oiselet et se dirigèrent vers la ville de toile du parti bromalois. Dans cette fin de nuit à l'atmosphère un peu crue, ils passèrent à travers la prairie comme l'ombre d'un nuage sur la lune. Les barrières du camp du dehors étaient aussi solidement gardées que celles du camp du dedans, mais les sentinelles étaient lasses. Le charme torpide qui flottait autour de la Lysandière suffit à assoupir les soudards devant lesquels elle défila. Le chat sur ses talons, avec une superbe silencieuse. Dans les allées et les ruelles qui sinuaient entre les tentes, c'était à peine si la braise couvait sous la cendre des foyers, mais cela ne gênait en rien les deux rôdeurs nocturnes. Par la pensée, la Lysandière confirma ce que Mirabilis craignait. Elle commanda de la guider jusqu'au pavillon du Cal. Ce repère accueillait une vraie meute de matins, créancés pour la chasse à l'ours et aux sangliers. Le matou estimait que c'était vraiment une idée fort mal inspirée d'aller se fourrer dans un chenil pareil. Mais d'évidence, ses réserves formaient le cadet des soucis de la dame. Les sensations, les pensées et les émotions du chat et de l'enchanteresse se mélangeaient dans le flux intangible de leurs rêveries et de leurs désirs. Mirabilis avait été formé par son défunt maître à cette communion spirituelle. C'est ainsi qu'il communique avec moi, et c'est ainsi que, cette nuit-là, il enroulait sa petite conscience dans celle de la Lysandière, comme il s'était levé un peu plus tôt sur ses genoux. Le danger que représentaient les grands chiens du duc n'était que vétille en regard du péril que courait la fragile âme féline en se frottant au génie de l'ensorceleuse. Mirabilis s'étourdissait dans cet esprit vaste comme un ciel d'été, à la beauté un peu folle, rempli d'éblouissements mais aussi d'éclipses et d'astres morts. L'eût-elle voulu, la Lysandière eût soufflé la minuscule psyché du minet comme une chandelle, ou l'eût gobée toute crue. Mais l'enchanteresse avait jadis éprouvé du respect et de l'amitié pour le maître disparu de Mirabilis. Alors, par nostalgie, et peut-être par remords, elle tolérait de la part du familier arrêt des privautés qu'elle n'eût admises de nul autre. Ainsi, à travers les souvenirs et les rêves de Mirabilis, je me rappelle des bribes de cette nuit-là et du regard que portait l'enchanteresse sur le camp du dehors. Je frémis rétrospectivement devant l'acuité de sa vision et je tremble à l'idée qu'elle réalise un jour que j'ai usé du chat pour voir un peu par ses yeux. À la différence des autres peuples, les elfes perçoivent les auras de façon innée. C'est la raison pour laquelle ils devinent si facilement la magie à l'œuvre, même lorsqu'ils ne sont formés à aucun art. Celle qui se faisait appeler la Lysandière était issue de cette gent. Mais voilà bien longtemps qu'elle était devenue plus qu'une elfe, et aussi plus qu'une magicienne. Ses dons de voyance en faisaient à la fois une augure, une devineresse et une cresmologue. Chose étrange, ce talent inouï ne la rendait pas particulièrement lucide. L'univers chatoyant de force, de symboles et d'épiphanies où elle avait sublimé sa conscience l'égarait autant qu'il l'éclairait.
lorsque l'enchanteresse et son petit compagnon se faufilèrent jusqu'au quartier du Caux. Ils y virent en tout cas beaucoup plus que l'immense pavillon ténébreux, majestueux comme un manoir. Des brasières éclairaient vaguement les entrées, gardées non plus par des sergents, mais par des chevaliers en armes. Un murmure lénifiant de la lissandière suffit à les plonger dans un rêve éveillé qui les rendit indifférents aux deux intrus. Mais la dame ne franchit pas immédiatement le seuil de ce palais de soieries et de brocarts. Elle considéra d'abord avec un rien d'amusement les armoiries brodées du duché que la lueur des braises cramoisissait sur les pans de la tente. La visiteuse salua avec un soupçon d'ironie la tête de serre. Elle était l'une des rares personnes à se rappeler qu'il s'agissait de l'héritage héraldique d'un très vieil esprit clanique. Par le passé, elle avait eu l'occasion de se frotter à Afghan le Noir, le père sauvage de l'antique tribu Brocomagle, à l'époque où ses guerriers n'étaient que des barbares incultes comme leurs voisins ou romans. Elle n'en avait pas conservé de très bons souvenirs. La chance des Brocomagles avait été de se rallier à Léodegard le Resplendissant et de s'inféoder au royaume de Léomance. En se convertissant au cyclothéisme, ils avaient abandonné peu à peu le culte païen, mais avaient conservé l'idole dans leurs emblèmes. Du clan fondateur étaient issues les lignées cousines de Brocmel et de Bromel. Celles-ci, en s'unissant par plusieurs mariages à la famille royale au fil des siècles, avait fini par intégrer le soleil de Léomance dans ses couleurs. D'où la rencontre de Ser Héliophore des armoiries ducales, un sauvage couronné, moquait avec dédain la lissandière. Le blason n'était toutefois pas ce qui retenait le plus l'attention de l'enchanteresse. Dans l'entre-monde, tout le grand palais de soie miroitait de magie. Les hommes d'armes qui contrôlaient les accès ne formait pas la seule garde de la tente ducale. Plusieurs sortilèges élaborés avaient été tissés pour sanctuariser le siège du pouvoir. Des talismans mantiques surveillaient les entrées. Des phylactères, disposés aux quatre angles du pavillon, repoussaient les menaces occultes. Ils exerçaient même sur la lissandière une certaine répulsion, ce dont elle fut plutôt froissée. Des esprits aériens tourbillonnait lentement au-dessus des mâts et des toits de toile pour égarer les incursions astrales. La visiteuse, malgré le déplaisir de se sentir vaguement éconduite, considéra tout cet art d'un œil appréciateur. Pour une fois, elle n'avait pas affaire à des gris-gris de rebouteux ou à de la sorcellerie de village. Ganelon de Bromel était protégé par un évocateur habile. Ce qui étonna la lissandière fut de ne pas reconnaître la marque de Sénargent dans ses entrelacs magiques. Certes, le vieil enchanteur passait pour mort depuis deux siècles, mais la dame s'attendait à ce que le duc fût servi par un disciple de son école. La plupart des grands magiciens appartenaient à une tradition dont les principes et les modes opératoires étaient identifiables aux yeux des initiés. Si la lissandière décelait quelques emprunts à l'ésotérisme sénargien, dans certains charmes, l'art qui avait été déployé ici n'avait pas la démesure géniale et parfois brouillonne du sage ancestral. Au contraire, ces sortilèges avaient été tramés avec une grande rigueur formelle, mélangeant de façon efficace et souvent redondante des rituels issus de diverses écoles. L'enchanteresse y devinait un esprit original, minutieux et lettré. Cet art respirait l'érudition et les manies d'un docte. Elle n'en sourit pas moins avec suffisance. Ce rival méritait certes quelques considérations, mais elle aurait pu abattre son enceinte immatérielle en se jouant. Quel qu'il fût, le sorcier ducal n'employait que la basse magie. La lissandière connaissait plus d'une voix pour dissiper ses évocations. Elle s'abstint toutefois d'un assaut direct. Peut-être les points faibles de cette défense occulte étaient-ils des pièges, pour inciter des thaumaturges présomptueux à sous-estimer le magicien bromalois. Sans doute avait-il plus d'un tour dans son sac, et guettait-il les esprits intrus au fond d'une toile mantique.
L'enchanteresse ne voulait pas courir le risque de se dévoiler. Elle désirait malgré tout entrer. Aussi, plutôt que de briser ou de contourner les sortilèges de l'adversaire, elle décida de les tromper. Elle chantonna un charme qui, d'une certaine manière, prolongea son influence jusqu'à la composition de cette chronique, puisqu'elle atténua le rayonnement de son esprit et fit briller celui de Mirabilis. À travers l'écheveau incantatoire des sortilèges, le chat devint le protagoniste de l'aventure et la lissandière une simple figurante. L'intrusion dans les défenses magiques ne passerait donc pas inaperçue. Finesse qui masquerait finalement l'étendue réelle du pouvoir de la dame. Le sorcier ducal se focaliserait simplement sur le matou et ses talents. Après avoir compris qu'il avait affaire à un familier, il tâcherait de remonter jusqu'à son maître. C'était tout le sel du tour qui lui était joué, car le maître de Mirabilis était mort depuis 2 siècles. Bien que le procédé flattât l'amour-propre du greffier, il hésitait à se prêter à une mystification qui pouvait lui valoir de sérieux désagréments. Mais le moyen de résister à la présence ensorcelante de la lissandière. La rouée le prit dans ses bras, le pressa contre son sein, l'embrassa entre les oreilles et lui coula de suaves promesses qui, bien qu'il eût lui-même la pratique de ses courtisaneries, le firent patiner d'aise contre le corsage de sa ravisseuse. Subjugué, le matou consentit à servir de chèvre mantique. L'enchanteresse se faufila donc dans le pavillon suzerain avec un gros chat noir perché sur l'épaule comme une vulgaire sorcière de village. L'intérieur du séjour ducal était aussi vaste et obscur que le tinel d'un château. Le chapiteau central faisait office de grand salle. Les ailes se trouvaient compartimentées par des tentures qui distribuaient des appartements privés. Quelques brasières et une lampe unique, suspendues au grand ciel de tente, dispensaient de chiches lumières dans ce volume somptueusement délimité par les tapis et les tapisseries. Des pages et des écuyers dormaient au seuil des alcôves seigneuriales, d'un sommeil si lourd qu'ils ne nécessitaient de recourir à aucun charme. En revanche, la menace redoutée par Mirabilis se vérifia aussitôt. Des molosses à l'encolure musculeuse et aux mâchoires puissantes relevèrent la tête en grondant, sitôt les 2 indésirables dans les lieux. La lissandière fit la grimace en sentant les 20 griffes du matou se planter dans son épaule. Le plus commode eût sans doute consisté à endormir la meute, mais elle craignait que la puissance du sort ne la découvrît aux yeux du magicien ducal. L'enchanteresse préféra avoir recours à des tours plus discrets. Un petit charme de silence, fréquemment employé par des familiers en cours de reconnaissance, et un charme de présence qui amplifia le charisme de Mirabilis à proportion de son égo. Faut-il rappeler la très haute opinion que le vagabond a de lui-même? Les malheureux chiens du duc eurent soudain l'impression d'être confrontés à un fauve fabuleux, un grand tigre royal du fond des steppes, et rampèrent en gémissant devant ce carnassier redoutable. Pendant que le matou hérissé roulait des yeux et commençait à tirer satisfaction des hommages canins qui lui étaient rendus, la lissandière sonda les énergies spirituelles des lieux. Sous l'édifice complexe des défenses du magicien ducal, elle perçut chez 2 personnes les miasmes de la nécromancie royale. Il ne s'agissait pas de nécromants à proprement parler, plutôt d'individus qui se trouvaient infectés par des reliques ou par des rituels dénaturés. Le beau visage de l'enchanteresse se teinta de dégoût. Cette découverte la confirmait dans ce qu'elle ne savait que trop. Que le culte du desséché infiltrait insidieusement les maisons nobles de Bromel. Par bonheur, elle pressentit aussi un pouvoir autrement plaisant et familier, le sien, à l'œuvre dans un envoûtement qu'elle jugeait aussi raffiné que distrayant. Passant au milieu des chiens épouvantés, elle se dirigea vers les appartements ducaux. L'eût-elle voulu, l'enchanteresse n'avait plus que 10 pas à parcourir et un rideau à soulever pour se retrouver en présence du duc de Bromel. Elle n'en fit rien.
ce potentat ne l'intéressait guère. Elle confondait d'ailleurs Ganelon et Griffon, ne sachant plus très bien qui était le fils de qui. Ces petits ducs étaient si fugaces. Se consacrait-elle un moment à ses propres affaires, et à peine le dos tourné, elle retrouvait sur le trône bromalois l'arrière-petit-neveu du dernier suzerain en date. Si l'on voulait un peu emboiser la famille régnante, il convenait de s'y prendre très tôt, sous peine d'être fort mal payé de sa peine. Et justement, la Lissandière s'y était employée. Elle obliqua avant d'atteindre les appartements du Caux, et souleva la portière de brocart d'une chambrette de toile. Dans l'obscurité, une carrure cuirassée fit face à l'intruse et à son chat. Mirabilis se tassa sur lui-même. Mais la Lissandière rit en silence. Ce n'était qu'une armure vide, dressée sur un portant qui venait de les accueillir. Elle paraissait monter la garde au chevet d'une silhouette couchée dans une alcôve entr'ouverte. La Lissandière s'assit avec grâce sur le lit, sans en déranger la courtine, et posa doucement Mirabilis près de l'oreiller. Le matou appuya presque sa truffe sur le visage du dormeur. Curieux de découvrir ce champion, dans lequel il pressentait vaguement un rival. Il loucha sur la physionomie pâle et même un peu maladive d'un homme encore jeune. Mirabilis se demanda ce que la dame lui trouvait. L'inconnu était certes mince et assez bien proportionné, mais son visage lui parut des plus ordinaires, en tout cas beaucoup moins séduisant que les oreilles pointues, les belles joues rondes et les longues moustaches de son irrésistible faciès félin. Cependant, il y avait dans cette figure endormie un mélange de fermeté, de sensibilité et de mélancolie qui, aux grandes dames du chat, pouvait exercer une certaine attirance chez les cœurs féminins. Mirabilis jugea malgré tout décevant que la Lissandière pût se laisser prendre à un glamour somme toute si commun. De son côté, l'enchanteresse couvait des yeux le mystérieux champion, abandonné dans un repos si vulnérable. Elle finit par lui effleurer le visage du dos de la main, d'une caresse si légère qu'elle ne perturba pas son sommeil. Puis, les paupières un peu baissées sur le feu smaragdin de ses prunelles, elle se mit à chuchoter avec une tendresse aussi vieille que le monde. « Coucou mon biquet, petit chéri, mon bel amour. Tu es devenu un grand garçon. Coucou mon cœur. Tu vois, ta marraine est de retour. »